In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Présenter une émission de radio est un exercice délicat. Je peux m'enthousiasmer pour les invités que j'accueille, être la plupart du temps admiratif de leur travail, mais est-ce partagé ? Voilà un bien grand mystère radiophonique. Alors après le bonheur pour moi d'avoir échangé avec Marc-Antoine Mathieu et William Wendling, changement de décor radical aujourd'hui avec mes deux invités. Dans un premier temps, nous allons parler poésie et écriture avec Ghislaine Ledizès. Et puis c'est Gwen de Bonneval que je vous propose d'écouter. Il vient parler du numéro spécial de la revue 303 qui s'intitule « L'appel du fleuve ». Elle en aura fait couler de l'eau sous les ponts, la Loire. Elle en aura aussi fait couler de l'encre. Ce nouveau numéro de 303 le vérifie à nouveau. La diversité des contributrices et des contributeurs qui ont accepté de se lancer dans l'aventure est impressionnante. Le foisonnement des esthétiques surprenant et la multiplicité des questions soulevées montrent combien ce fleuve de plus de 1000 km de long charrie notre histoire et interroge à sa manière notre avenir, sinon notre devenir. Mais commençons par le commencement et parlons poésie avec Ghislaine Ledizès. Bonjour Ghislaine Ledizès.
Bonjour Luc.
Comment vous présentez sur votre site ? Voilà les activités que vous listez. Nouvelliste, romancière et poète, formatrice en atelier d'écriture, rédactrice professionnelle. Vous animez des ateliers d'écriture créative et vous accompagnez des écrivains, écrivantes en projet personnel d'écriture. Et il faut ajouter aussi la traduction. Alors déjà, dans cette succession d'activités, il y a un fil rouge, c'est l'écriture. Mais en fait, est-ce que ce ne sont pas plutôt les mots ?
Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit indissociable dans la mesure où l'écriture est faite de mots. Mmh. C'est quand même l'écriture qui jalonne ma vie depuis tout le temps, depuis ma toute petite enfance. J'ai souvent l'habitude de dire « j'ai écrit avant de savoir parler ». Alors évidemment, c'est quand même une pirouette, mais... Oui, dès 6 ans, j'écrivais déjà des textes, en fait. Donc, tout ce qui a tourné autour après, ça a été beaucoup plus tard dans ma vie. Les ateliers d'écriture, ça a été vers mes 40 ans. La traduction, l'adaptation de textes de poètes étrangers, c'est notamment pendant les voies de la Méditerranée de l'Odev. Donc là, j'avais plutôt 47, 48, 50 ans. Donc, en fait, c'est parce que l'écriture était là, prenait toute la place... que d'autres activités autour de l'écriture sont venues se greffer, en fait.
S'il y a écriture, il y a lecture.
Oui, évidemment.
Alors, les premières lectures d'enfance. Alors, puisque vous dites que vous avez commencé à écrire à 6 ans, ce qui est ce qui dénote d'une certaine précocité, si donc vous avez commencé à écrire à 6 ans, quels souvenirs de vos lectures d'enfance vous avez ?
J'étais une dévoreuse de livres.
Et je parle à 6 ans. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, en fait, j'étais une dévoreuse de livres dans une famille qui ne lisait pas du tout. Ce qui fait que je forçais mes parents à faire 4 km à pied, parce qu'on était dans la banlieue parisienne, Créteil, qui était à l'époque des immeubles au milieu de nulle part, en fait. Hein. Mmh. C'était le début de création de la cité. Donc, il fallait faire 4 km pour aller à la bibliothèque du vieux Créteil. J'ai traîné mes parents, voilà. Et puis, quand même, mes parents ont vite compris mon intérêt pour la lecture. Donc, ils m'achetaient les livres de la bibliothèque pour enfants. Donc, j'ai dévoré tout ce qui existait, d'abord en bibliothèque rose, mais je me suis vite ennuyée. Donc, je suis rapidement passée à la bibliothèque verte, puis la bibliothèque rouge et or. Et puis, bon, tout ça, c'était bien gentil. Mais enfin, quand même, à la bibliothèque, j'ai découvert Villon, notamment. J'avais pas 6 ans, mais je devais en avoir 11 ou 12. Et j'ai délaissé très rapidement les livres jeunesse, qui n'étaient pas non plus les livres jeunesse qu'on lit aujourd'hui, hein, parce qu'il faut quand même faire la différence. Mais j'adorais Alice. J'ai dévoré les Alice détectives, par exemple.
Ah, il y en avait une série quand même. Hein.
C'est ça. Et je rêvais d'avoir le petit cabriolet d'Alice.
Comme beaucoup de petites filles à l'époque.
C'est ça. Et ce côté indépendant d'Alice. Donc, tout à l'heure, on s'en parle du vélo de Bella. Oui, peut-être que je tiens aussi mon goût de la nouvelle noire ou de.
Ben, oui, enfin.
D'Alice détective.
Alice détective. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai dû en lire quelques-uns il y a très longtemps aussi, on n'était pas dans le roman noir. Hein, on était.
Oui, c'était mignon. Hein.
Voilà, c'était très gentil. Les enquêtes étaient vraiment très gentilles. Moi, je disais en introduisant qu'il y avait l'écriture, mais qu'il y avait peut-être au départ plutôt les mots. Il me semblait, moi, à vous avoir lu, que cette question des mots était bien présente. Donc, on a parlé d'Alice. Alors, on parle d'Alice et on fait un bond géant, puisqu'on fait Alice, dont je ne sais même plus qui est l'autrice ou l'auteur.
Moi non plus.
Et Villon,
oui.
On reconnaîtra que l'écart est assez grand. Cette question donc des mots et de la manipulation des mots, vous dites que vous avez commencé à écrire à 6 ans. Vous écriviez quoi à 6 ans ?
Alors, je vais revenir sur les mots parce que j'ai eu le temps de maturer sur votre question.
Ah.
Et c'est vrai que, en fait, oui, les mots ont été là au tout début. Au début, était le verbe. Vous avez très, très bien, bien perçu, en fait. C'est étonnant, parce que personne n'a jamais dit ça, ni posé cette question. Et en fait, elle est très judicieuse. Parce que c'est vrai que j'ai parlé très, très tôt. Quand j'ai parlé, j'ai mis une phrase tout de suite. Me dit-on, hein, donc je crois que j'avais 11 mois ou 9 mois. Enfin, j'étais vraiment toute petite. Mm-hmm. Et j'ai dit, je la vois, maman, là-haut, à la fenêtre. Alors, c'est vrai que c'était...
Déjà de la poésie, ça. Hein,
mais en fait, c'était surtout une phrase apparemment quand même structurée au niveau d'une syntaxe pour un tout petit enfant. C'est assez étonnant. Donc, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai dite, c'est juste parce qu'effectivement, si vous répond à ce que vous disiez, c'est que effectivement, pour moi, les mots, même tout bébé, devaient commencer à avoir une importance très importante avant l'écriture.
Mais les mots, ce sont des petits objets, des petites séquences. Les mots, on les assemble pour faire des phrases, et donc les petites histoires, alors je ne voudrais pas être péjoratif bien évidemment, mais les petites choses que vous écriviez à 6 ans, c'était quoi ? Ça racontait déjà quelque chose ?
Alors j'ai quand même un peu de mal à m'en souvenir, hein, ça remonte à très loin, mais j'écrivais déjà des petites poésies, ça c'est sûr, et je mettais mes poupées, alors j'ai détesté jouer à la poupée, moi j'aimais jouer aux petites voitures, aux petits chevaux, beaucoup dehors. Et on m'offrait des poupées chez une fille. Elle me disait, qu'est-ce que je peux faire de ces poupées ? Donc, je les installais et je les maquillais, je les habillais et je leur faisais jouer des pièces de théâtre. Donc, en fait, je ne les écrivais pas forcément, ces pièces, mais j'inventais des histoires et je mettais ces poupées en situation, en dialogue, à se répondre. Mmh. Et puis, j'écrivais des petits messages. Par exemple, j'étais une photo d'oiseau au mur de mon bureau. Alors, j'avais peut-être 8. Je mettais une photo d'oiseau, puis j'écrivais un petit texte sous l'oiseau parce que, voilà, cet oiseau m'avait plu ou... Voilà, et j'aimais beaucoup lire déjà, et même je pense que à l'école on devait avoir des petites poésies déjà, des choses comme ça.
Je peux vous certifier qu'il y en avait, oui, des
poésies.
C'est sûr. Il y a inévitablement Paul Fort, de toute façon. Donc
c'est ça.
Voilà. Vous le dites, c'est vous qui le dites, l'écriture, la lecture, et puis cette frustration quand on est un enfant lecteur, cette frustration de pas arriver à la lecture de grand, quoi, la lecture dans laquelle on se retrouve complètement. L'écriture, elle a continué toute votre vie, mais la première publication pour vous, c'est 2004, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, sans vouloir accuser votre âge, bien évidemment. Avant 2004, avant la publication de ce premier texte, micro-roman, Elle et moi, la baleine, il y avait déjà de l'écriture structurée, il y avait déjà des textes qui traînaient dans des tiroirs, il y avait déjà des poèmes qui s'accumulaient.
Oui, comme je l'ai dit, hein, j'ai écrit tout le temps. Donc, en fait, j'avais des montagnes. Quand on me déménageait, je faisais, mes amis me disaient, mais c'est pas possible, entre les livres et les écrits, ça pèse des tonnes. Donc, j'avais déjà tout ça, mais... comme je l'expliquais, je n'étais pas dans une famille du tout porteuse par rapport au monde de l'écriture et de la littérature. Donc, c'était choisir un métier utilitaire, c'était voilà. Et du coup, tout ça, ça a été complètement bridé dans ma vie. Je ne me donnais pas du tout d'autorisation. J'y ai même jamais pensé, en fait. C'était censuré. Et en fait, quand j'ai, à un moment donné, j'habitais en Bretagne et j'ai rencontré à l'époque un couple de sculpteurs, potiers d'art, et dont l'homme était poète, Paul Quéré, quand même assez connu en Bretagne, et qui avait une revue qui s'appelait Du sel sur la queue du poisson. Et donc, il m'a demandé des textes à l'époque, ce qui me paraissait complètement incroyable, voilà. Mais j'avais 20 et quelques années, 20, 25 ans.
C'est ce couple-là qu'on retrouve dans Elle et moi et la baleine.
Oui, alors effectivement, très juste. Il y a une inspiration de ce milieu, de tout ce milieu breton que j'ai connu à l'époque. Mmh. Et oui, alors j'ai mis, je crois, une fabricante de bijoux. Alors j'ai un peu hybridé, je pense, c'est pas le personnage. Mais oui, il y a.
Ils apparaissent, hein, clairement.
Ariane Mathieu, elle est vraiment là, oui, quelque part, oui, c'est certain.
Oui, oui. Oui. Ouais. Et ce texte-là, c'est donc la première publication, c'est-à-dire que c'est le résultat, ça a reçu le prix des écrivains méditerranéens en 2004. Donc, vous avez, c'est presque un concours auquel vous avez participé.
C'est ça.
À quel moment on décide de se lancer dans le grand bain ? C'est-à-dire que vous avez écrit, ça s'accumulait, vos amis se sont plaints de vos piles de feuilles de papier qui s'accumulaient. Mais à quel moment on dit, en fait, ce que j'ai écrit, je vais l'envoyer, je vais le soumettre, je vais le proposer. Qu'est-ce qui déclenche ce mouvement-là ?
Alors, je pense que pour moi, il y a eu deux, trois endroits, moments de bascule. À un autre moment, j'habitais donc au sud de Grenoble, dans la montagne. Et là, j'avais écrit un recueil de nouvelles dont faisait partie Elle et moi la baleine, qui s'appelait Écailles. Et là, j'ai deux personnes qui l'ont lu et qui, à l'époque, je vendais des légumes sur les marchés. Et il y en a une qui m'a dit, mais comme ça, mais c'était un vrai coup de poing. Mais qu'est-ce que tu fous à vendre des légumes sur les marchés avec ce que tu écris, quoi, en fait ? Voilà. Et là, j'ai jamais pensé, en fait. Ça a été tout d'un coup comme un voile, comme s'il y avait une feuille de papier kraft que quelqu'un déchirait avec un couteau de boucher, en fait. Wow. C'est aussi violent que ça, franchement. C'était d'une grande violence, mais positive. Mais elle m'a renvoyée à moi-même. Mais il a encore fallu beaucoup d'années. Oui. Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais des études de peinture. Je prenais des cours de musique, je donnais des cours de musique, j'allais dans d'autres arts, mais pas mon art peut-être majeur. Et pour le coup, après, j'ai fait une formation de formatrice en atelier d'écriture, un DU. Et ensuite, j'ai redéménagé dans le sud. Et là, j'ai fait un rêve dans l'endroit où il fallait que j'aille habiter. Bon, ben voilà, j'ai suivi, moi, bêtement. Et j'ai acheté une maison. Et une fois que j'ai acheté cette maison, j'ai découvert qu'il y avait le grand festival de poésie de l'ODEF qui était là, à 3 km de chez moi. Donc là, je me suis trouvée en immersion complète dans le milieu de la poésie, de la littérature. J'ai fréquenté des gens comme l'Atelier de l'Agneau, j'ai même rencontré l'éditeur de POL, etc. Et là, j'ai rencontré Hubert Tuffel de Gros Texte, qui lui, à le tout dernier jour du salon, m'a dit « Est-ce que tu me donnerais un manuscrit ?» Voilà, et j'avais lu comme ça, il y avait des poètes qui ouvraient des tribunes à des gens qui voulaient lire, et voilà, et ça a démarré comme ça, en fait. Et je suis allée au salon du livre de Montpellier, grand salon quand même, et là, à un stand, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, mais il y a le prix de poésie, le prix de la nouvelle, est-ce que tu connais le prix des écrivains méditerranéens, t'as encore 3 jours pour le soumettre. J'ai dit pas du tout, j'ai soumis mon texte et j'ai eu le concours. Et après, j'étais dans tout ce milieu assez foisonnant dans l'héros littéraire. Et donc, j'ai découvert les éditions Souffle. Et là, il y avait aussi le concours de poésie. Et pour le coup, la première année, j'étais dans les 5 premiers candidats. Et la deuxième année, j'étais habitée, si on veut, par la poésie, et appelée par Jacques Gast, grand poète, héroltais, mais plus qu'héroltais, grand poète, qui m'a appelée en me disant, c'est le prix de poésie pour la dernière des Bédouines. C'était des années magiques, là, 2004-2006, et aussi la Maison de Poésie de Paris, où j'avais été lauréate d'un collectif du prix de poésie jeunesse. Alors,
quelques années plus tard, vous publiez un recueil de poésie qui s'appelle « Se battre est un acte de douceur ». Ça, c'est... Alors, vous avez dû revenir dans le secteur, puisque c'est édité au Petit Pavé,
oui.
Maison d'édition qu'on connaît bien ici. C'est édité au Petit Pavé. Ce recueil est postfacé par Christian Bulting, quand même. Il en parle comme d'un livre engagé. C'est vraiment un livre engagé, ce recueil, « Se battre est un acte de douceur ».
Ah ben oui, ben je crois que le titre le dit... Alors, c'est une alternance entre des moments d'intimité, intimiste, de privilégier la qualité des relations humaines, en fait, et puis des moments beaucoup plus politiques, on peut le dire carrément. Il y a des textes très engagés sur les plans politiques, écologiques aussi, voilà, où j'ai dit un peu toute ma colère, tout ce que je ressens. Je suis très sensible à l'injustice depuis l'enfance aussi. Et donc, c'est sorti comme ça sur un plan poétique au fur de quelques mois, en marchant dans la nature, voilà, il y a un mélange de tout ça. Et oui, il y a des moments je ne suis pas allée avec le dos de la cuillère. Et puis, il y a d'autres moments où c'est des tests beaucoup plus doux, de retour vers l'intériorité, voilà.
Mmh. Alors, bon, c'est une poésie. Votre écriture, en tout cas dans ce recueil-là, c'est très concret, très pragmatique, mais j'irais même jusqu'à dire prosaïque. Vous y faites référence à Stéphane Hessel et son livre « Indignez-vous ». Mm. On y retrouve les Robins de Notre-Dame-des-Landes. Mm. Dans ce recueil, vous dénoncez. Pour vous, écrire l'exaspération du monde qui ne tourne pas rond, c'est important ?
Ah oui, c'est très important. Alors, j'ai un grand mythe qui n'arrivera jamais, je pense, à l'âge que j'ai. Mais j'ai toujours vu les grands auteurs comme Hessel, comme des grands noms, en fait, à qui on donne la parole dans les médias nationaux et qui peuvent exprimer des choses sur le monde. Et en fait, moi, je me serais très bien vue pouvoir, de temps en temps, avoir une tribune comme ça pour dire ce que je pense et dans l'idée d'essayer de faire avancer et d'évoluer le monde dans lequel on est. Voilà, pour moi, tout ce qui est humaniste... Je suis très, très portée par ces sujets-là. Ça habite tout mon travail. Ouais.
Mmh. Alors, hasard des rencontres, hasard des rencontres, un de vos textes qui s'appelle... alors, je vais donner le titre tout de suite pour pas me tromper. Donc, où est la violence ? En fait, ce texte-là rejoint finalement l'album, la revue 303 dont nous allons parler après la pause musicale, qui est un texte d'une BD de Ariane Hughes et de Sébastien Rochard qui parle de Marie-Anine Leclerc, une militante sur le port de Saint-Nazaire contre l'usine Total et contre la pollution. Et cette BD se termine par « La violence ». C'est de ne pas écouter. Ça vous parle, ça ?
Ben oui, puis quand vous avez parlé des mots tout à l'heure, on sait très bien que les gens qui n'ont pas les mots l'expriment en violence et que quand on a les mots, que même les gens qui ont des mots vraiment et qui ne sont pas écoutés, eh bien oui, ça provoque en face la violence. Je pense qu'on est dans une époque, si on ne veut pas le voir aujourd'hui particulièrement, quand on s'assoit sur les votes des gens, par exemple, je veux dire, il ne faut pas s'étonner derrière. Alors, la violence ou parfois de grandes passivités dont il faut beaucoup se méfier, de l'eau qui dort, parce que quand les gens sentent que même quand ils agissent ou qu'ils disent, rien ne porte fruit, on le voit au niveau culturel, sur le Pays de la Loire ou partout en France actuellement, je pense qu'à un moment donné, il y a un retour de bâton de ça, parce que les gens sentent qu'ils ne peuvent pas agir sur le moment, mais qu'à un moment, ça bouillonne. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas mort du tout, quoi.
Alors ça, on le ressent bien dans ce recueil. Hein. Et puis est apparue là une nouvelle, Le vélo de Bella, qui est publiée par alors, les éditions L'Ours Brune, maison d'édition que je ne connaissais pas, mais qui fait un travail de publication magnifique.
Absolument.
Enfin, vraiment magnifique.
Très, très beau.
Le vélo de Bella, elle vient d'où cette histoire ?
Alors, Le vélo de Bella fait partie d'un recueil que j'écrivais à l'époque qui s'appelle Effacé, au pluriel, E et. Enfin, voilà. E.ES. Et dans lequel je parle de personnes effacées d'une manière ou d'une autre. Et dedans, il y avait cette nouvelle sur cet enfant-là. qui est effacée bon, de la manière dont elle est effacée. Là. Et tout d'un coup, j'ai vu apparaître dans Nouvelle Donne, je crois en ligne, le concours de nouvelles organisé par cette maison d'édition d'Ursus Brune que je ne connaissais pas non plus. Et pour le lancement d'une nouvelle collection en noir, parce que la maison d'édition avait déjà une collection en blanche, où notamment est publié Daniel Pétresse, qui s'occupe de l'inventoire à Aleph. Et du coup, j'ai présenté ce concours et puis j'ai eu la chance d'être la lauréate, tout simplement. Alors, le jury a quand même décidé... Dans le jury, il y avait aussi Gilbertin Moncharmont de la revue Pourtant. Je ne le savais pas, mais je l'ai appris après. Et donc, le jury a décidé en fait, de publier 3 livres pour le lancement de la collection au lieu d'un seul. Mais donc, dedans, il y avait le vélo de Bella.
Le vélo de Bella. Alors, c'est ça. Alors moi, ce vélo de Bella, je l'ai lu... en le présentant, ça vous a surpris que j'en parle de cette manière-là. En le présentant, moi, j'ai trouvé que votre écriture était extrêmement sèche. C'est une écriture sans fioritures. Il n'y a pas beaucoup de poésie. Voilà, surtout, la dynamique de l'histoire que vous racontez. Alors, pour une nouvelle, c'est assez étonnant parce que, en règle générale, il est convenu qu'une nouvelle, il y a une unité de temps et il y a un twist final. Vous, il n'y a pas d'unité de temps puisque la nouvelle se déroule sur 10 années. Alors, c'est quand même assez un exploit. Hein, plus de 10 ans, hein, je pense. Hein.
Oui, 8 ans, je crois, à peu près.
8 ans. C'est quand même un exploit. Réussir à raconter une histoire qui dure sur 8 ans en moins de 40 pages, ça relève de l'exploit. Donc, quand je parle de sécheresse, moi, c'est plutôt dans l'écriture. Voilà, il n'y a pas de poésie, pas de fioriture. Et puis surtout, vous nous racontez une histoire. Moi, j'en suis sorti terrorisé parce que dans ces 38 pages, quand on lit l'histoire que vous nous racontez et qu'elle entre en nous, cette histoire, elle parle d'enfance, vous dites effacée, disparue pour des parents. Cette notion de disparition de l'enfance, c'est une des terreurs qui traverse la vie des parents.
Ah oui, enfin, ça la lamine totalement. C'est évident que quand un enfant disparaît, sans qu'on sache où il est passé, etc., avec tous les scénarios que les parents peuvent s'inventer autour de ça, dont les plus terribles, évidemment, surtout quand... Voilà. Eh bien, bien sûr que la terreur des parents, elle est là, mais... Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas voulu faire de démonstration, d'assister de manière voyeuriste. Donc, j'ai essayé vraiment d'opter par quelque chose du niveau de la pudeur, beaucoup, de la retenue. Alors, au niveau de la sécheresse, c'est vrai que, on en a parlé un petit peu avant l'émission, c'est vrai que je suis un peu surprise de ça parce que les gens m'ont plutôt fait un retour. Ah, c'est une écriture très poétique et très douce. Donc voilà, parce que je n'ai pas voulu marteler, mais c'est vrai que le thème lui-même est un thème violent, forcément. Et que de toute façon, la condensation dont vous avez parlé tout à l'heure, alors moi je parlerais plutôt d'une écriture condensée parce que là, réduire effectivement tout ça je dirais plutôt que j'ai cherché l'efficacité, la condensation et l'absence de voyeurisme plutôt que la sécheresse. Quoi, voilà. C'est comme ça que je le ressens moi, mais chaque lecteur se l'approprie, voilà, comme vous le disiez.
Sauf que les mots que vous utilisez, pour moi, ils définissent la sécheresse. Hein.
Ah oui,
voilà, d'accord. C'est comme ça. Oui. Donc finalement, j'ai raison.
D'accord, mais il y a un degré de douleur qui est là. Donc après, tu choisis le mot qu'on choisit de mettre dessus, c'est ça.
Alors avant de terminer cette conversation, est-ce que vous pouvez nous lire un petit passage, s'il vous plaît ?
D'accord.
Alors ce sont des extraits, de cette nouvelle qui s'appelle Le vélo de Bella.
C'est ça, j'ai recomposé un petit peu, voilà. Jour de novembre, le tout début, l'air pince ce matin-là. Il y a eu de la gelée blanche sur les herbes, les toitures et les pampres. Bella a les joues rouges. Elle est à vélo, elle appuie sur les pédales. De temps à autre, elle se met en danseuse. Cela la réchauffe, son corps qui se balance ainsi dans le vif du matin. Sur la tête, elle porte un bonnet de laine blanc chamotté de fils d'argent, tricoté par sa mère. Et au cou, une écharpe assortie, qui flotte derrière elle dans un mouvement cinétique. Bella va jusqu'à la place du village et fait demi-tour. Elle accomplit 5 allers-retours de la maison au village, puis elle rentre dans son foyer bien chauffé. Elle entend des cris de bébés, des rires, des gazouillis. Deux petits sont assis sur le tapis dans un parc. L'un d'eux lui jette un cube de plastique coloré en riant quand elle s'approche. Assise non loin de là, sur une chaise, la mère de Bella, Angélique, donne le biberon au plus petit des bébés qui porte un bavoir en éponge avec un canard brodé dessus. C'est exactement 3 jours plus tard que le vélo de Bella disparaît. Le vélo n'a pas été retrouvé près des camionnettes. Les gendarmes ont cherché, y compris derrière les bosquets, rien. Nous, on l'a pas, votre bécane. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un vélo de gamine? Vous m'avez regardé, j'aurais l'air d'un crapaud perché dessus. C'était un grand brun avec une barbe et une voix un peu râpeuse. Peut-être le tabac, peut-être le brouillard des matins de vendange. Ils, les marginaux, les gendarmes disent les marginaux, l'avaient peut-être déjà vendu. Le marginal, sa mine peu amène, son regard brûlant, dépourvu d'indulgence, la dureté de sa voix, la sécheresse de ses gestes. La nuit tombait, elle tombait de bonne heure en ces débuts janvier. Angélique commence à préparer le goûter, pose les bols sur la table de la cuisine, elle vérifie la cuisson du gâteau au four, Bella n'est pas rentrée. Il était 16h32. Angélique regarda par la fenêtre, la lumière déclinait sérieusement. Elle lava un peu de vaisselle, celle de la confection du gâteau. Peut-être que s'activer est un moyen de dévier l'inquiétude. Tout ceci est machinal. Qu'est-ce qui ne va pas ce soir?
Voilà, on est un peu dans le contexte. Ça va, on va s'enfoncer, s'engluer. Ça va être, voilà. Enfin, je recommande la lecture de ce texte que j'ai vraiment trouvé. Terrible. Ghislaine de Dizet, je vais vous remercier d'être venue me rendre visite, venue jusqu'au studio de Radio G. On va faire une pause musicale et puis on écoutera après Gwen de Bonneval.
Je veux vous remercier aussi quand même avant que...
Oui.
Beaucoup, Luc, de votre invitation qui me touche beaucoup.
Eh bien, musique.
Les obsessions s'entendent entre elles. Crois-tu que c'est un bon ménage? Lavons le linge sale, comme si c'était pour demain. Gardons les mains sales, quitte à se dépoussiérer. Droit de passage, endroit de vague à l'âme. Le droit de passage, endroit de vague à l'âme. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irréel. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. De droit de passage, en droit de vague à l'âme. De passage, endroit de vague à l'âme. Ta raison te mentirait. De droit de passage, endroit de vague à l'âme. À l'envers se poser. De droit de passage, endroit de vague à l'âme. Ta raison te mentirait. À mesure, tu tiens à la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras. mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiens à la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiens à la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiens à la mesure.
À mesure, et c'était chanté par Jus, c'est le premier titre de son tout premier album qui sort aujourd'hui même. Vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, et vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Après, Ghislaine le disait, c'est sa très belle nouvelle, Le vélo de Bella. J'accueille maintenant Gwen de Bonneval. Bonjour Gwen de Bonneval.
Bonjour.
Je suis ravi de vous rencontrer à nouveau. J'étais venu chez vous, à Saint-Florent-le-Vieil, au mois de juin 2022, pour parler entre autres de la formidable trilogie Le Dernier Atlas. Au cours de la conversation, j'avais souligné votre capacité à vous inscrire dans tous les segments de la BD. Mais aujourd'hui, c'est pour une nouvelle casquette que je vous ai invité. Celle de directeur éditorial, mission confiée par les éditions 303 pour le numéro spécial L'Appel du Fleuve. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce numéro spécial ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est une 303 est une revue qui existe depuis 40 ans, qui fait énormément sur la région des Pays de la Loire et qui m'a fait le plaisir et l'honneur de me confier une mission de réaliser un numéro hors série, tout en bande dessinée, sur la Loire. Alors, pas tout seul, évidemment, parce que comme vous l'avez précisé, mon rôle, même si je fais un récit court dedans en tant qu'auteur, mon rôle était plutôt de diriger, de coordonner, de choisir avec l'équipe de 303, les auteurs et autrices qui ont réalisé des histoires pour ce hors-série en particulier.
Alors, la couverture est extraordinaire, magnifique. Elle est de Pascal Rabaté. Et la toute première planche est extraite du Loir d'Étienne Davodeau. Il y avait obligation qu'ils inaugurent tous les deux ce numéro spécial ?
Non, il n'y a pas d'obligation, de même que certaines personnes qui auraient pu être dedans ne sont pas dedans. D'autres qui ont émergé, qui ont eu envie de faire des choses, donc ce n'était pas forcément si évident non plus. Donc c'était... Il n'y a pas d'obligation. Ce qui aurait été dommage, c'est de ne pas leur proposer. Sachant que ce sont... des figures emblématiques de la bande dessinée et de nos régions.
Alors, Pascal Rabaté, il fait une bande dessinée, hein, rabatéesque, on pourrait dire,
oui.
Hein, dans ce numéro, on en parlera. Étienne Davodeau, lui, il n'y a que des extraits de son album, oui. Loire. Voilà, il a donné, quoi. On peut dire qu'il a exploité le sujet.
Oui, et puis en plus, il aurait vraiment voulu participer... pleinement à ce numéro, et son emploi du temps ne l'a pas permis à ce moment-là, mais il suit de très près la revue, et je crois qu'il a beaucoup aimé le numéro également. Donc c'était, comme il y a un dossier au début du numéro, sur le paysage, sur les paysages, sur la bande dessinée, paysage en bande dessinée, réalisé par Maël Ranou, il y a des extraits d'auteurs et autrices de bande dessinée, et c'est dans ce cadre-là que Étienne Davodeau fait présence. Voilà, Rabaté, lui, a pu être disponible, puisqu'on parle des figures emblématiques.
Oui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, bah, ça fait quoi d'être appelé, de se voir confier la mission de directeur éditorial ?
Ça fait plaisir. Je n'étais pas complètement... à côté de cette mission, enfin, je me sentais relativement à l'aise avec ça parce que j'ai eu un passé d'éditeur ou on va dire, de meneur de revue. J'ai monté une revue avec d'autres amis qui s'appelait Capsule Cosmique, une revue jeunesse dans les années 2000. On a réalisé Professeur Cyclope aussi, avec d'autres amis nantais. J'ai monté le pôle bande dessinée de Sarbacane aussi les premières années, et ensuite ils ont volé de leurs propres ailes. Donc ce sont des missions que j'aime bien, et en général je les accepte que si elles ont du sens, puisque mon métier c'est d'être auteur de bande dessinée, et si on peut être créatif avec l'édition et qu'on vient me chercher, ou que j'ai une volonté particulière parce que il y a une idée qui n'existe pas encore, qui pourrait être développée. Dans ce cas-là, je me dis, bon, pourquoi pas y aller ? Et il se trouve que j'adore vraiment ce que font, ce que fait 303 en général. Il y a un lien de 303 avec la bande dessinée. Je crois que c'est leur quatrième ou cinquième revue consacrée à la bande dessinée. Alors, pas toujours de la création. Parfois, oui. Parfois, ce sont des numéros qui sont plus sur les auteurs et autrices. Et là, quand l'équipe est venue me voir pour coordonner ce numéro autour de la Loire, alors que la Loire est un fleuve qui m'attire beaucoup et dont je me suis encore plus rapproché actuellement, je pouvais difficilement dire non. J'y suis allé avec grand plaisir. Et puis, je n'ai pas été déçu parce que voilà, c'est vraiment une équipe avec qui c'est facile de travailler et tout le monde était en confiance, quoi.
Alors, 303, c'est une petite équipe. Hein, quand on voit le travail monumental qu'ils font depuis 40 ans, la qualité éditoriale, ça tient sur une petite équipe. Donc, et ce n'est pas les dévaloriser que de dire ça. Mais quand ils vous ont sollicité, le projet, il était dans quel état ?
Ah, c'était de l'ordre de l'intention, en fait.
C'était que de l'intention ?
Oui. Oui, oui.
Waouh !
Oui. Justement, je pense que, je vais dire elle, parce que c'est vraiment que des femmes, hein, mais c'est va être plus simple. Elles ont l'habitude de travailler avec des illustrateurs et illustratrices, ou de parler de bande dessinée, mais n'ont peut-être pas le réseau que j'avais, et sachant que j'avais déjà exercer cette activité-là, peut-être qu'il y avait une confiance réciproque et les choses se sont construites au fur et à mesure. On n'était pas on était ouvert, il y avait des notes d'intention, des envies de parler de certains sujets, donc on a proposé des choses, parfois ça a été capté, parfois pas. L'idée c'est à la fois un travail de commande et à la fois on sollicitait un travail personnel des auteurs et autrices par rapport à leur habitat, par rapport à la Loire, leur façon d'habiter leur territoire aussi. Et donc, on a été à la fois les solliciter sur des sujets qu'il aurait été dommage d'éviter, on va dire, d'une certaine manière, par rapport à la Loire, qui sont importants. Et puis, si il ou elle ne s'en emparait pas, c'était pas très grave, parce que ça voulait dire qu'ils avaient quelque chose à en dire personnellement, et que c'est ça qu'il fallait privilégier.
Alors, il y a 23 dessinateurs, je pense. Hein.
23 histoires et une trentaine d'auteurs et d'autrices, parce qu'il y a des duos aussi.
Il y a des duos. Comment ils ont été comment ça s'est passé ? Comment ils ont été sollicités ? Est-ce que vous avez envoyé un mail à tous les dessinateurs des Pays de la Loire en leur disant voilà le projet, qui participe, ou alors c'est plutôt du réseau, c'est-à-dire tiens, je pense que un tel ou un tel, pourquoi pas, je le sens bien. Comment ça s'est passé, cette agrégation de toutes ces personnes?
Ça s'est fait par étapes, c'est-à-dire que j'ai pensé à des personnes. Alors forcément, si on vient me chercher, moi je peux avoir des affinités plus grandes avec telle ou telle personne. Mais après, je peux avoir des affinités avec une personne pour laquelle je me dirais, bon, ça ne va pas être son truc que de s'emparer de ce sujet-là. Mais d'une certaine manière, je ne voulais pas parler à leur place non plus. Donc ça s'est fait pas à pas. Y a des personnes vraiment pour lesquelles je me disais, ça serait vraiment très chouette qu'il ou elle accepte. Donc vraiment, ça s'est fait, on va dire, par vague. J'ai pas envoyé à tout le monde un mail pour dire qui a envie de participer, lève la main. C'est pas passé comme ça. Ça a été des discussions. J'ai quand même eu un premier groupe, on va dire, de personnes que je connaissais peut-être un peu plus. Et après, j'ai élargi. En sachant que, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, que ce numéro-là, c'est aussi une photographie des gens qui ont eu envie, qu'on a sollicité, et qui ont eu envie et le temps de le faire à ce moment-là. Et que raconter des histoires à partir de la Loire, ça pourrait être encore plus vaste que ça. Et le numéro aurait pu être encore très différent.
Alors, il y a quand même un cahier des charges. Le volume de la revue, il est assez constant. Enfin, on est toujours sur une revue qui est très épaisse, qui est trimestrielle, qui est conséquente. Enfin, il y a toujours de la matière. Malgré tout, avant cela, les gens que vous avez sollicités ou pour qui vous êtes dit ah, j'aimerais bien que elle ou lui, ça me plairait bien qu'il soit dedans. Il y a qui comme nom en fait sur qui vous comptiez.
Oh ben là, c'est difficile de dire d'extraire quelqu'un de
du lot.
C'est pas évident parce que toutes les personnes qui sont là sont des personnes que j'estime et j'ai pas été chercher des gens par défaut. Loin de là, ça aurait pu être encore plus vaste. Et il y a des personnes que je connaissais peu. Mais forcément, on va vers ce qui nous vient en premier. Hein. Et l'idée, c'était aussi de. On a tâtonné hein, avec l'équipe de 303 par rapport à la pagination dont vous parliez. On savait que ça allait être fortement paginé, mais combien exactement? Il a fallu aussi réfléchir au sujet, au rythme, au nombre de pages qui étaient autorisées. Oui. Donc là, il y a aussi une façon de maqueter. Enfin, le graphisme a été fait par Karine Asselin et d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais par rapport au rythme, moi j'ai réuni les histoires, mais le chemin de fer, c'est l'équipe de 303 qui l'a articulé. Et en me disant, qu'est-ce que tu penses de ça? Et à la fin, moi, j'ai. En fait, ce qu'elles m'ont proposé me convenait parfaitement. Mmh. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a eu un travail d'équipe, mais en même temps, on était vraiment sur la même longueur d'onde, donc c'était assez facile. Après, sur les personnes dont il faudrait extraire un nom, j'ai un peu de mal avec ça parce que.
D'abord, c'est où. Cette revue, ce numéro spécial, il présente un panorama aussi de la bande dessinée,
oui,
dans le domaine du graphisme. C'est-à-dire qu'on a une multiplicité de propositions graphiques qui est quand même assez impressionnante. Ça va du dessin le plus minutieux. Je ne sais plus comment s'appelle le dessin sur lequel Dominica s'exprime.
Le dessinateur, c'est Jérôme Mulot.
Voilà, Jérôme Mulot, donc qui fait un dessin très minimaliste au possible. C'est du dessin magnifique.
C'est très fin.
Très fin, ouais. Délicat. Une pleine page, j'ai une pleine page sous les yeux avec un arbre qui est sublime, extraordinaire. Et. Je pense donc on est sur une forme plutôt classique du dessin. Je pense au texte qui s'appelle Mes voisins les Indienneurs, beauté et laideur de Charles Dutertre,
oui,
qui parle des Indienneurs. Et là, il va reprendre graphiquement le graphisme des Indiennes, quoi. Enfin, tout bonnement.
Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que chaque personne a essayé d'en faire. Une petite œuvre, même si c'est quelques pages. Moi, c'est ce qui m'a le plus agréablement surpris. C'est pas évident de répondre à un travail de commande, de faire un récit court et de mettre complètement de soi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans ce que j'ai reçu. C'est que tout le monde a joué le jeu complètement et essayé de trouver des formes singulières, particulières, honnêtes, on va dire, vraiment investies. Mmh. Alors que tout le monde a un emploi du temps, a peut-être des livres en route de longue haleine, et chacun a pris le temps de le faire consciencieusement. L'exemple de Charles Dutertre ou de Jérôme Mulot est parfait, mais c'est vrai que moi, je pense que tout le monde s'est investi vraiment très fortement. Et il y a aussi cet effet de groupe, quand on sait que telle ou telle personne participe et qu'on aime le travail de telle ou telle personne, il y a eu un, je crois qu'il y a eu un cercle vertueux pour que chacun se pousse à faire quelque chose qui soit à la hauteur de ses capacités, en dehors du fait que ce soit au départ un travail de commande.
Alors il y en a un qui a fait fort, hein, c'est, enfin, moi je trouve, c'est, il nous envoie sur la lune quasiment, c'est Fred Blanchard avec son Néoned. Là, c'est une petite BD qui explose de couleurs, enfin qui c'est complètement fou. Alors Fred Blanchard, c'est un compagnon, c'est le compagnon sur le dernier Atlas. Hein,
oui.
Il a participé à la série. Quand on reçoit une proposition comme ça, comment on réagit, enfin comment on l'apprend, parce que on était presque dans une esthétique Marvel, enfin on est dans quelque chose de très, enfin des aplats, de la couleur, du mouvement, enfin c'est assez étonnant.
Oui, moi j'étais content parce que l'idée c'était d'avoir des récits très variés. La Loire elle a plein de visages et il fallait que les auteurs et autrices soit le reflet de la multiplicité des possibles de la Loire à travers leur personnalité et graphique et intellectuelle de scénario. Et Fred Blanchard, il incarne pour le coup un aspect de la SF, une sorte de prospective un peu grattante, un peu urticante, on va dire. Je savais qu'il allait apporter quelque chose que d'autres ne feraient pas, et donc j'étais ravi qu'il ait poussé le curseur jusque-là. Ouais.
Alors, on retrouve, y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la revue. L'écologie est très présente, enfin, la notion de ce fleuve. Alors, à nouveau, j'aurais dû mettre mes marque-pages. Il y en a une qui parle particulièrement, alors qui va dans un mouvement à rebours, c'est-à-dire qu'elle part du constat catastrophique du fleuve. Voilà, des polluants, du plastique. Et puis finalement, elle se termine par une notion d'espoir en disant, ben non, finalement, il y a aussi des poissons, il y a aussi un retour à la nature. Enfin, donc, l'écologie est présente, mais pas sous un côté forcément pessimiste. Il y a de l'espoir, il y a ce fleuve qui est possible, qui coule et qui est encore possible. Et ça, moi, j'ai trouvé ces aspects intéressants. Chaque texte est marié avec un auteur.
Oui.
Ce dispositif, il vient d'où ?
Ça, c'est l'équipe de 303 qui a plutôt cette habitude-là. Il y a la rencontre des auteurs autrices qu'on a conviés avec la revue 303 qui accueille et donc qui a un peu des... Ne serait-ce pas forcément des habitudes, mais on va dire des façons de faire, des façons d'éclairer, de mettre en avant des auteurs. Puis là, il y a un dialogue... pour donner un peu le dispositif, il y a un récit en bande dessinée et à la fin, il y a un texte en écho, en regard à ce qu'on vient de lire, qui est écrit par une autre personnalité. Mmh. Donc, et cette personnalité, on lui a demandé de, à la fois de parler du récit qu'il ou elle venait de lire, mais aussi de parler de l'auteur ou de l'autrice. Mmh. Donc ça fait une sorte de dialogue qui vient enrichir, je trouve, la revue dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire de 303.
Alors, juste, la bande dessinée proposée par Jérôme Mulot, c'est Dominique A. Qui fait le texte, accueilli par... Alors, le texte avec une phrase à la Dominique A, accueilli par le paysage. Et le texte commence par « Je n'aime pas quand l'eau tombe sur l'eau comme aujourd'hui ». La brume venue de la mer balayant, transversant la Loire d'ouest en est, au tout intérêt au paysage. Je trouve que c'est magnifique. Enfin, ça nous plonge à l'endroit vraiment de la revue, c'est-à-dire qu'il y a un côté aussi poétique. Il y a un côté poétique, très fortement poétique, avec aussi les combats ouvriers qui ne sont pas oubliés. Il y a une BD qui est consacrée aux combats qui ont été menés contre la pollution des grandes entreprises. Au bord de la Loire. Donc, on retrouve tous ces aspects-là. Alors, La revue sort, elle est sortie début avril. Hein, c'est vraiment tout neuf, en fait.
Oui,
hein,
ça, le 3 avril, exactement.
Le 3 avril. On peut la trouver partout. En fait, on la trouve, c'est une revue, donc on la trouve beaucoup en bibliothèque aussi.
On la trouve dans les bibliothèques, mais aussi on peut se la procurer assez facilement dans les librairies et surtout des Pays de la Loire, bien sûr, même si je pense qu'il y a un effort de diffusion qui a été fait un petit peu au-delà. Mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est une petite équipe, donc les moyens de diffusion sont à la hauteur de ça également. Et je crois qu'il y a un très bon accueil pour l'instant, donc ça nous réjouit.
Alors c'est une petite équipe qui est d'une gentillesse qui est adorable comme tout. Quand moi je les ai contactés, voilà, ils sont disponibles, on peut supposer qu'ils sont submergés de boulot, mais on les appelle, ils répondent, c'est vraiment super. Et donc on peut la commander aussi sur le site de la revue 303.
Tout à fait, oui.
Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la revue 303, elle existe depuis, comme vous l'avez dit, depuis 1984. Elle était fondée sous l'impulsion d'un président de région, gaulliste, Olivier Guichard.
Oui.
Elle est trimestrielle. Ça me fait rire quand je lis ça. Dire sous l'impulsion d'un président de région, moi, ça me fait rire, en fait. Elle est trimestrielle. Son titre, c'est l'édition des numéros minéralogiques des 5 départements des Pays de la Loire. On rappelle quand même qu'en 2024, fin 2024, Madame Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, a diminué la subvention qu'elle accordait à la revue de 50% pour la supprimer complètement en 2026. Autre temps, autre mœurs. Oui. Je consacrerai d'ailleurs une émission complète à 303 autour de leur passionnante collection Carnet d'Anjou. Merci Gwen de Bonneval d'être venue jusqu'au studio de Radio G. Bon retour à Saint-Florent-le-Vieil.
Merci à vous. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
For a flame that keeps you out of your crazy mind. Listen in my words, cause it's make you shine better every day you change like a freaky line. What I have to do? Should I let you down? Even if I love you, should I have to accept the words that coming out of your mouth? I feel tired of your tears, cause it's always for some. don't know how I feel. Cause it's already the same vibe. You talk so bad about me, but you are the only one to do that.
C'était Cégibette qui chantait Walter entre les pages. Et ben c'est fini. Un petit coup d'œil sur l'agenda et ça se bouscule. Vous annoncez que c'est précisément aujourd'hui que sort l'adaptation par Frédéric Rébéna de Vipère au Point d'Hervé Bazin et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Ce jeudi 24 avril, c'est Journée Bouillon avec Camille Laurence comme invitée et c'est à l'Université catholique. À 19h. Le 25 avril, c'est la rouverture de la librairie Les Nuits Bleues qui s'installe 100 avenue Pasteur, pas très loin du studio de Radio G. Et il y a une soirée le 25 avril. Ce week-end, les 26 et 27 avril, c'est le Festival Imaginaire dans les salons Kurnonski à Angers. Toutes les infos sur le site du festival. Ce samedi 26 avril aussi, c'est la fête de la librairie indépendante, la Luciole, Contact, Chrysalis, Itinérance et au bonheur des mots y participent à Angers, mais aussi le passage culturel à Cholet et Parchemin à Saint-Florent-le-Vieil. Si vous achetez un livre dans ces librairies, il vous sera offert une rose et le livre Espiritula publié par les éditions Gallimard. Au cours de l'émission, vous avez entendu Jus qui a chanté À mesure et Cégibette qui a chanté Walter. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 17 mai. Le 7 mai à 17h. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Et puis, bien sûr, votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.